Comme chacun le sait, le tocsin a sonné le vendredi 2 septembre 1939 pour la mobilisation générale et en juin 1940, l'armée allemande envahissait le pays. Dans notre hameau de Bouchefontaine, les soldats ennemis sont arrivés un jeudi vers 11h en sidecar à une allure beaucoup trop rapide pour prendre les virages. Et quelques-uns se sont retrouvés au fossé. Ils ne se sont pas arrêtés. Nous n'avons donc pas été importunés par leur présence. Cependant, nous avons eu très peur et même paniqué, puisque notre mère a fait quitter aussi vite le pantalon long que portait mon frère pour en remettre un court, et elle l'a gardé à l'intérieur de la maison de peur que les Allemands le prennent, les voisins le lui ayant fait craindre. Seul, le bourg a été occupé pendant 4 ans, mais nous voyons passer de temps à autre les soldats pour se ravitailler dans les fermes. La situation s'est renversée en 1944. Ils ont quitté le bourg pour se réfugier dans la campagne. Notre hameau était envahi. C'est dans notre maison que l'armée avait établi son état-major. La table de nos repas, la desserte à vaisselle, et même là-haut, la coiffeuse de notre maman était occupée par les machines à écrire. La popote était installée sous un gros noyer des voisins, les pièces d'artillerie dans les champs en face sous les pommiers. Et quand elles lançaient leurs projectiles, il y avait un tel déplacement d'air que nous étions déstabilisés. Les obus ne faisaient pas que partir. Ils revenaient aussi des environs de la chapelle en Jugé, où les soldats américains avaient réussi à approcher. La lutte était rude. Les avions à double fuselage rasaient nos maisons en sifflant et lançant des balles traçantes qui zébraient le ciel comme des éclairs. Les gros bombardiers lâchaient leur chargement et tout tremblait. Les vitres éclataient, les cadres et miroirs descendaient des murs, même les pots de confiture rangés sur les étagères nous tombaient sur la tête. Les soldats occupaient aussi l'atelier de notre père. Elle lui prenait ses planches et ses outils pour fabriquer à la hâte des cercueils sommaires et des croix pour leurs camarades tombés au front quelques kilomètres plus loin. L'un d'eux dit un jour à notre père: « Plutôt 15 jours à Stalingrad que 8 jours ici. » Et un tout jeune, pour ne pas repartir à l'attaque, s'est tiré la charge de son fusil mitrailleur dans le pied alors qu'il était assis sous un châtaignier à le nettoyer. Quand une accalmie se produisait, nous entendions aussi les cris et les plaintes des malades du Bon Sauveur de Saint-Lô que le hasard de la marche avait amené à la ferme de la campagne à Kibou, tout près de chez nous, et que le personnel attaché au pommier pour qu'il ne s'échappe pas. Les quelques religieuses qui les encadraient avaient bien du mal à canaliser ces pauvres malades qui, pour la plupart, n'avaient pas quitté leur cellule ni vu le jour depuis bien longtemps. Tout cela nous terrorisait, c'était la guerre à domicile. Et nous avons dû quitter Bouchefontaine sur un ordre d'évacuation le 22 juillet et nous avons appris à notre retour le 15 août que Canisy avait été libérée le 27 juillet par l'opération Cobra. Bernadette Voisin.
Le 26 juillet, à l'arrivée des Alliés, 3 habitants du village du Catillon, M. Georges Marie, M. Maurice Beaufils et M. Victor Marin ont découvert un soldat américain blessé. Après l'avoir enveloppé dans une couverture, ils lui ont offert à boire, mais le soldat méfiant a demandé à Georges-Marie de goûter le breuvage avant de le boire à son tour. En reconnaissance pour leur geste, le blessé a donné son quart, sa fourchette, cuillère et ouvre-boîte en souvenir. Or, à ce moment-là, un avion de reconnaissance américain qui surveillait l'avancée des troupes a aperçu les trois hommes. Le pilote a signalé leur présence à un Américain au sol équipé d'un émetteur. Après la transmission du message, trois Américains ont été envoyés pour les faire prisonniers. Mais ces derniers ont vite compris le geste des habitants du village. Ils ont donc emmené le blessé avec deux Allemands qui étaient faits prisonniers, accompagnés de deux sentinelles américaines. À leur départ, les Américains ont crié « Vive la France! Vive l'Amérique !» Quelques jours auparavant, une DCA allemande installée à l'entrée du même village a été détruite par l'aviation américaine. Les six soldats blessés cherchaient une voiture de la Croix-Rouge. Enfin, afin de les secourir, M. Georges-Marie les a conduits au village de Grimbert, de Kibou. Le village de Catillon est situé près du chemin Montois où de nombreux Allemands étaient postés. Georges-Marie.
Lettre de Madame Arlette Morel, fille de Monsieur Morel, gendarme à Canisy, de 1941 à 1950. Chevenier, le 23 mars 1994. Madame Rivet, comme promis, je vous envoie ces quelques lignes, témoins de mes souvenirs d'enfance et particulièrement la période précédant le débarquement, juste avant de partir à la caserne avec maman, mon frère et mes sœurs. Pour l'exode à Dangy, nous n'aurions jamais dû quitter la caserne. Je me souviens de l'épicier, le Caïfa. Je ne me souviens plus de son nom. Peut-être Monsieur le Comte.
Oui.
Tous les jours ou presque, j'allais à l'épicerie. Un jour, j'ai vu un homme de grande taille descendre les escaliers de la chambre. Je voyais bien que ce n'était pas un homme de chez nous. Je demandais à maman qui pouvait bien être ce monsieur qui était chez le Caïfa. Je fus prié de n'en parler à personne, et si je voyais d'autres monsieur, il ne fallait rien dire. Par le jardin jouxtant la cour de la gendarmerie, maman et le Caïfa échangeaient les renseignements pour passer des parachutistes, car c'était bien des paras que le Caïfa cachait chez lui. Maman me l'a dit peu de temps avant de mourir. Une rencontre avec Daniel Joigne m'a appris que bien des jeunes devaient la vie à mon père, M. Morel. Il prenait des risques partant à vélo la nuit, dans la campagne, pour avertir les jeunes de partir de chez eux vite fait. Le lendemain matin de bonne heure, il y avait une rafle faite par les Allemands. Il arrivait aussi de cacher les hommes en les habillant en gendarmes, à l'étonnement des Allemands, qui ne trouvait jamais le nombre exact de gendarmes à la gendarmerie. Confidence de maman à ma sœur Pierrette. À ma mémoire, le bruit des bottes des Allemands traversant le bourg, la popote devant la caserne où la troupe venait chercher à manger, les fusées de toutes les couleurs dans le ciel, le grondement des avions, le bruit des mitraillettes, la nuit où nous couchions tout habillés, la peur quand papa ne rentrait pas de tournée. Extrait du journal Le retraité militaire. Octobre 1985. Extrait d'archives. La gendarmerie de la Manche en 1944. Après de puissants bombardements, une brèche est ouverte dans le front et les blindés américains foncent en direction d'une part de Cerisy-la-Salle, d'autre part de Coutances et Saint-Sauveur-Lamblin. Le 27 juillet, Marigny était libérée. Au sud de Saint-Lô, les Américains progressent également. Canisy et Torigny-sur-Vire sont libérés. Percy est occupé le 2 août, Tessy-sur-Vire le 3. Les Allemands, en déroute, se replient vers le Calvados en direction de Vire. Le 4 août, tout le territoire de la section de Saint-Lô est libéré. Pendant toutes ces opérations, la gendarmerie a maintenu l'ordre réprimant le pillage et portant secours aux blessés, inhumant et identifiant les morts. Les brigades de 40 ans, Saint-Clair-sur-Elle, Tessy et Canisy, sont constamment restées sur place. Les autres brigades de la section de Saint-Lô ont dû, sous la menace des Allemands, se replier dans la région. À Torigny, l'adjudant Léveillé a été tué et le gendarme Lemoigne grièvement blessé, amputé des deux jambes. Deux femmes de gendarmes ont été tuées. A signalé la belle attitude du maréchal des logis chef Yves Lejean, commandant la brigade, et des gendarmes Eugène Morel et Édouard Lebiez de la brigade de Canisy, qui sous les bombardements aériens et les tirs de l'artillerie se sont dépensés sans compter, ont porté secours aux habitants et lutté contre les incendies dans des conditions périlleuses. En particulier, par leur action courageuse, ils ont contribué à empêcher que le village de Canisy soit complètement détruit par les flammes. Leur réaction a été remarquée par les troupes alliées. Ils ont fait l'objet chacun d'une citation à l'ordre de la 3e Légion de gendarmerie. Document communiqué par M. César Guénon. Subtilisation d'une carabine par Mme Requier et M. Eugène Maine à un soldat allemand. Ce soldat que nous logions n'eut-il pas l'idée d'aller chercher une carabine à la gendarmerie de Canisy où les armes étaient déposées, ceci afin de tuer les oiseaux qui picoraient les légumes du jardin de la madame, avait-il dit. Il tirait dans toutes les directions, ce qui inquiétait la grand-mère Requier qui avait chez elle ses 6 petits-enfants. Il avait également un risque pour les habitants du voisinage qui allaient et venaient dans la ruelle attenante à sa maison de commerce. En accord avec Eugène Maine, il fut convenu de subtiliser la carabine. Prévenu par Mademoiselle Jeanne Angers, employée de Madame Requier, M. Maine arriva rapidement et prit possession de la carabine. Pendant ce temps-là, Mélina Requier entretenait la conversation avec le soldat, un peu court le temps. L'Allemand rencontra Eugène Maine qui tenait la carabine enveloppée dans un sac, une pouque, comme disent les Normands en patois. Le soldat a demandé à l'intéressé s'il n'avait pas vu sa carabine, et celui-ci, le plus innocemment du monde, lui répondit par la négative, puis fila avec l'arme qu'il remporta chez lui afin de la camoufler. Témoignage de Madame Madeleine Rivet.
Témoignage, l'histoire des fusils. Pendant l'occupation, M. Eugène Maine, menuisier, subissait la présence régulière des 3 Allemands qui se servaient de son outillage et de ses machines. Dans cet atelier, il avait camouflé une dizaine de fusils, dont un Moser allemand de la Première Guerre mondiale 1914-1918. Comment possédait-il ces fusils? Eugène avait pris la succession de M. Le Canuet, son beau-frère. Celui-ci, ouvrier, menuisier ébéniste, était très adroit et réparait pour un armurier de Saint-Lô les armes détériorées, fusils, carabines. Eugène camoufla donc ses fusils qu'il voulait conserver sous une cheminée et dans un bac, dans l'atelier même occupé par les Allemands. 49 ans après le débarquement, voici les faits dont se souvient M. Maine, âgé de 92 ans.
L'histoire d'un soldat. Parmi la troupe qui campait dans le champ près de la maison de la famille Requier au village Vérité, un luxembourgeois incorporé de force dans la Wehrmacht était affecté comme ordonnance d'un officier allemand. Ce jeune soldat parlait couramment le français. Il venait donc préparer la cuisine pour son officier à la maison. Un jour, à notre grande satisfaction, il cracha dans la salade destinée à son chef et, devant notre surprise, il ajouta « C'est bien assez bon pour lui. » De plus, il mettait un temps infini à réparait la voiture de son capitaine. Un mois plus tard, alors que nous nous trouvions sur la route de Saint-Martin, quelle ne fut pas notre surprise d'apercevoir notre luxembourgeois debout dans un convoi américain qui, voulant se faire reconnaître, nous adressa de grands signes amicaux. À quel moment a-t-il réussi à franchir les lignes américaines ? Ce jeune homme ne rêvait que de son pays et de la grande duchesse du Luxembourg à laquelle il avait voué un culte. Odile Requier, Canisy.
Un Canisien résistant. Maurice Huck, marchand de poissons, habitait Canisy au village de Montmireille. Il allait se ravitailler sur la côte en poissons frais. Tout en exerçant son commerce, il servait d'agent de renseignement afin de transmettre des messages pour la résistance. Repéré par la Gestapo, il fut enfermé dans la prison de Saint-Lô au mois de février 1944. Le 6 juin, l'aviation américaine passe et repasse en lâchant ses premières bombes sur la gare de Saint-Lô et en direction de la centrale électrique d'Agneau. Ces bombes, je les ai vues tomber dès le matin du 6 juin, car je me trouvais dans la ville pour chercher ma fille et mon fils en permission. Monsieur Huck m'avait raconté que ce 6 juin, un appel téléphonique anonyme avait ordonné de libérer les 12 otages, ce qui fut fait. Une heure plus tard, contre-ordre. On cherche le libéré. Je l'ai questionné souvent. Il n'a jamais su d'où venait ce mystérieux coup de téléphone. À quel moment a-t-il pris le temps de secourir le docteur Philippe, immobilisé sous les décombres de la prison de Saint-Lô, le sauvant ainsi d'une mort certaine? Ceci d'après les récits des neveux du docteur Philippe. Le journal de la Manche Libre du 15 août 1993 publie un article rédigé par M. Marcel Menant, résistant, âgé de 84 ans, qui lève enfin le voile sur l'origine de ce coup de téléphone qui libéra Maurice Huck et ses compagnons. L'interprète Jacques Delacour, alias Liebermann, était juif et incorporé dans l'armée allemande. Il avait réussi à se faire enrôler comme interprète à la Feldkommandantur et c'est lui qui donna l'ordre de libérer 12 prisonniers. Témoignage de Madeleine Rivet, Canisy. Les habitants du village du Catillon n'ont pas quitté leur demeure. Ils ont été libérés par les troupes de choc américaines. Leur tenue en mauvais état était déchirée et sale. Il y a eu un combat car un soldat américain a été retrouvé mort dans la mare face à l'habitation. Maurice Beaufils et un ami ont été autorisés à venir dans la bourgade qui était occupée par la troupe américaine et c'est en passant près du calvaire qu'ils découvrirent plusieurs corps de soldats, ce qui fait penser que la bataille a été rude. Le champagne au château. Au moment de l'affrontement entre les Allemands et les Américains, les troupes dévalisèrent la cave du château. Avec leur butin, les soldats américains se rendirent chez le châtelain de Castilly, près de Lison, et tout en lui offrant de trinquer avec eux, il leur demanda la provenance de ses boissons, champagne, vieux calvin. Le plus simplement du monde, ils annoncèrent à leur hôte, Monsieur Octave de Kergolé, qui n'était autre que le cousin de M. Thibault de Kergolé, que ce champagne venait de Canisy. Témoignage de Mademoiselle de Kergolé. L'après-guerre. M. Ferdinand Le Platois, maire de Canisy de 1947 à 1959, a fait un état des aides apportées lors des combats, de l'importance des dégâts et d'une statistique sur l'ensemble des destructions. Premièrement, importance et durée des combats sur le territoire communal. Bombardement du quartier de la gare, où se trouvait un train, et des routes pendant 3 jours, 6, 7 et 8 juin, causant 7 morts et 4 blessés graves appartenant à des convois de civils de passage. Organisation Todd. Bombardement de Kanizi à partir du 20 juillet et tous les jours suivants. Combat de libération et incendie du bourg les 26 et 27 juillet. Deuxièmement, circonstances particulières soulignant les dangers courus et le courage des habitants. Dès le 7 juin, installation au couvent des sœurs d'une clinique et d'un hôpital provisoire pour opérer et soigner les blessés. Installation avec les seuls moyens de Kanizi. Docteur Négrier, docteur vétérinaire, Monsieur Lécluse, les religieuses, Mademoiselle de Kergolet, Maître le Jeune, notaire, etc. Vers le 20 juin, les autorités de Kanizi ont aidé au placement à Kanizi et Kibou d'une grande partie du personnel et des malades du Bon Sauveur. Plus tard est arrivé un poste de la Croix-Rouge avec médecins et infirmières. Vers le 4 juillet, installation d'un centre d'accueil avec le concours spontané de volontaires au notariat chez Maître Lejeune. Plus de 3000 repas gratuits ont été servis aux réfugiés et aux évacués de passage. Les autorités restées à Kanizi ont installé des camps dans les écoles et au village de la Vannerie pour accueillir, coucher et nourrir les réfugiés de passage en retour d'exode et renvoyés par les Américains.
Dommages subis par la commune au moment des combats. Nombre de victimes civiles tuées, 5. Nombre de blessés graves, 7. Nombre de bâtiments publics, de fermes, d'habitations sinistrées totalement. Bâtiments publics, 1. Ferme, 2. Habitations dans le bourg, 26. Bâtiments d'exploitation, 60. Le nombre de bâtiments publics, de fermes, d'habitations sinistrées partiellement à 25% au moins. Bâtiments publics, 5. Ferme 8, habitations et bâtiments d'exploitation, 87. Pourcentage des sinistrés totaux et partiels par rapport à l'ensemble des immeubles de la commune. A. Dans la bourgade, 70%. En comptant pour 1 les immeubles sinistrés totalement. En comptant pour une demi les immeubles sinistrés partiellement. B. Dans toute la commune, 36%. Kanizi, personne tuée lors des combats de 1944. Le 7 juin vers 9h au village de Pierlet, Prokampion Paul, 21 ans de nationalité allemande, employé à l'organisation Todd, firme Boer Wasser. Un inconnu âgé d'environ 25 ans. Une inconnue âgée de 40 ans environ de nationalité française. Olwens Hill, âgé de 22 ans, employé à l'organisation Todd. Un inconnu âgé de 35 ans environ, de nationalité hollandaise, employé à l'organisation Todd. Degen Paul, âgé de 35 ans, de nationalité allemande. Zobele Michael, âgé de 37 ans, de nationalité allemande. Le 6 juillet, vers 16h au village du Mont-Mireille. Vilma Hubert, étudiant, 21 ans, né à Paris, décédé dans l'ambulance. Le 12 juillet à 1h au château. Duham Jean, âgé de 44 ans, maraîcher, domicilié à 40 ans. Le 14 juillet à 20h au village Lardonnière. Mariette René, âgée de 38 ans, domicilié à la chapelle en jugé. Le 20 juillet à 2h au village de la Mêlerie, Coupé Louis, 24 ans, domicilié à Cherbourg. Le 21 juillet à 6h, Gire Marie-Louise, bas du bourg, face à son domicile, âgé de 60 ans. Le 24 juillet à 1h, Dirini Yvonne, 14 ans, est décédé au bourg, domestique chez M. Loué, percepteur. Le 26 juillet à 17h au bourg, Sal André, juge de paix, est décédé au bourg. Il jouait de l'orgue dans le beffroi.
l'état du département de la Manche après la bataille. Bilan des pertes et dégâts. Le département de la Manche a été le plus meurtri de toute la Normandie. 316 églises ont souffert. 68 totalement détruites. 157 gravement endommagées. 91 plus légèrement atteintes. Toutes les villes et gros bourgs sont transformés en gros tas de pierre. Sur 438 000 habitants, il y a eu environ 15 000 morts et 200 000 à 300 000 sinistrés. 617 communes sinistrées, dont 101 à plus de 50% et plus de 100 000 immeubles détruits. Un tiers du cheptel tué, 11 000 chevaux et 105 000 bovins, et le reste du bétail est sans fourrage pour l'hiver. 500 000 pommiers morts et 200 000 décapités. 110 000 hectares de terrain rendus inutilisables, dont 4 000 minés. Presque toutes les exploitations agricoles ont subi d'importants dégâts. Le réseau ferroviaire de la Manche, utilisé en grande partie par l'armée allemande, a été en partie détruit. Il faudra attendre l'année 1945 pour voir circuler un train pouvant relier la Manche à Paris. Le nombre de véhicules automobiles était encore très réduit. Cette crise du transport isolera le département encore pendant de très longs mois. Les matières premières pour reconstruire manquent. Ardoise, ciment, verre, charbon pour se chauffer, vêtements pour se couvrir. Et les habitants ont manqué pendant plusieurs semaines de farine. L'hiver a été très dur avec la neige. La situation des habitants de la Manche a été encore plus tragique que celle du Calvados. Le département de la Manche était le plus meurtri de la Normandie. Beaucoup de sinistrés sont revenus loger dans les débris de leurs maisons et de leurs fermes, dans les caves ou les étables. La vie administrative s'est réorganisée lentement.
Et les enfants des écoles ont dû soit être admis dans des bâtiments de fortune, voire même dans une étable, soit attendre la réparation sommaire de leur école.
Édition Heimdall.